Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
En 2025, le climat n'est plus une alerte, c'est une réalité implacable. Le monde subit des chocs extrêmes, mais l'Afrique encaisse les coups les plus durs. Sécheresse, canicule, crise alimentaire et migration forcée s'enchaînent, révélant une vulnérabilité profonde face à un dérèglement global, massif et inégal. Face donc à l'urgence, la question n'est plus s'il faut agir, mais comment et surtout avec quels moyens pour un continent au cœur des enjeux de demain. Et pour en parler, nous recevons M. Elhaj Mbaye, spécialiste en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie ISO 50001, notamment aussi sur les questions de changement climatique et de développement durable. Merci de nous servir de guide et de conseiller aujourd'hui.
Oui, bonjour Tonga et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et c'est toujours un plaisir en tout cas d'être parmi vous.
Et justement, votre livre primé à Abidjan, tirer la sonnette d'alarme sur les graves également concernant les conséquences climatiques, dans, également au niveau de l'Afrique. Pouvez-vous revenir sur les menaces?
Oui, effectivement, le livre en fait sonne comme une alerte effectivement du changement climatique et des impacts en Afrique en particulier. Et j'avais ciblé, si je puis dire, quatre menaces vraiment qui sont interdépendantes. Parce que la première menace, en fait, c'était ce que j'appelle la menace existentielle, parce que ça touche directement en fait notre quotidien, notre nutrition, parce qu'effectivement le changement climatique, je disais que ça va impacter aussi bien l'agriculture, la pêche, les problèmes d'eau. Et effectivement, tout ça, c'est lié à notre nutrition. Et en second lieu, effectivement, il y a une menace qui est directement liée à notre économie. Parce que je disais tantôt que les pays africains vont être de plus en plus vulnérables, économiquement parlant, et vont de plus en plus dépendre en fait, des aides extérieures, si vraiment l'Afrique n'y prend pas garde. Et tout ça nous mène effectivement à une troisième menace qui est vraiment la menace que j'appelle la menace, enfin, la menace sécuritaire. Parce qu'effectivement, vous savez, en fait, quand on est en situation de dépendance, quand on est en situation de survie, endoctriner vraiment des populations dans des considérations qu'on ne s'y attend pas, disons, une passerelle qui est vite, en tout cas, c'est un pas qui est vite franchi. Parce qu'effectivement, tous ces problèmes de terrorisme qu'on entend partir par là, les problèmes de migration, tout ça, vraiment, sont liés à la menace sécuritaire. Et il y a une quatrième menace, vraiment, qui est liée à tout ça, parce que je disais qu'effectivement, tant que l'Afrique reste, en tout cas, un continent vulnérable, elle reste en fait un continent, si je puis dire, de survie. Et le mot de survie est extrêmement dangereux pour un individu parce que ça lui fait perdre en fait ses valeurs. Et quand on n'a plus de valeurs, on n'a plus de repères. Voilà.
Donc, on n'a plus de repères. La canicule touche le monde durement, comme vous venez de le souligner aussi. Quelle est la relation avec le changement climatique?
Oui, effectivement, il y a une relation directe avec les changements climatiques parce que historiquement, il y a la pollution, en tout cas, qui est due à l'émission des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre ont pour origine principalement la combustion en fait, des énergies fossiles, en particulier le charbon que les Européens, le charbon que les Américains ont brûlé pendant des décennies et qui s'est accumulé en fait au niveau de l'atmosphère et qui a constitué en fait un piège, j'allais dire, au rayon solaire qui devrait en tout cas être reflété pour être en tout cas évacué hors de la Terre. Et justement, c'est vraiment ce piège, si je puis dire, qui est constitué par les gaz à effet de serre, hein, donc qui constitue vraiment la cause vraiment de cette canicule que l'on ressent. Et typiquement, je sais que les météorologues sont plus en mesure effectivement de l'expliquer, mais clairement, il y a une interdépendance entre canicule et réchauffement climatique dû à la condition en fait des énergies fossiles.
Et dans cette même dynamique aujourd'hui, quelle est plutôt selon vous la solution pour les Africains?
Oui, effectivement, là c'est une question en tout cas, c'est une question intéressante qui, si je puis dire, qui coûte très cher en réponse, parce qu'effectivement, l'Afrique, si on pose vraiment la question de manière brute comme ça, il est clair que par rapport, comme on dit, à ce réchauffement climatique, l'Afrique n'a pas la solution. Ça, il faudrait qu'on se mette d'accord dessus. Maintenant, quelle est la solution pour les Africains par rapport, comme on dit, à cette canicule? Ça, on peut le poser, en fait, ainsi. Et moi, je ramène toujours, effectivement, disons, le début de réponse, aux pays que j'appelle pétrodollars, hein, les pays qataris, les pays en tout cas qui sont dans le Golfe Persique, où vraiment ils ont des températures vraiment très chaudes, mais dont on entend très peu parler effectivement, en tout cas des impacts ou de la durée de ces températures. Mais ces pays, typiquement, comment ils ont fait pour en tout cas être à l'aise? Enfin, si je puis dire, parce que souvenez-vous, je ne sais pas la Coupe, si vous êtes fan de foot ou nos auditeurs, la Coupe du Monde, je pense, en 2020, a été organisée au Qatar. Et cette Coupe du Monde, en fait, a été organisée dans un pays, effectivement, de Golfe Persique. Et beaucoup se posent la question, est-ce que la FIFA a fait le bon choix pour organiser, en fait, une Coupe du Monde dans un pays qui fait extrêmement chaud? Mais qu'est-ce que les Qataris ont fait? Je pense que tout le monde est témoin. L'empreinte carbone, malheureusement, des Coupes du Monde n'a jamais été égalée. Parce que simplement, ils sont allés jusqu'à climatiser des stades. Voilà. Donc, si on interroge vraiment les journalistes, personne ne se plaint de la canicule. Maintenant, typiquement, quelle est la solution africaine par rapport à cette canicule? C'est vraiment faire comme les pays du Golfe, en utilisant mon propre ressource pour se refroidir au maximum. Et maintenant, comme je dis, la solution, en tout cas par rapport au réchauffement climatique, ça, on peut en parler, mais ça, c'est une autre question. Voilà.
C'est une question engendrant bien évidemment une autre. Aujourd'hui, avez-vous un exemple de plan d'adaptation par rapport à cela?
Oui, effectivement. Vous savez, en fait, quand on parle de préparation, d'adaptation au changement climatique, on fait souvent référence à l'ère pré-industrielle, effectivement, parce que faut juste que nos auditeurs comprennent que avant l'ère pré-industrielle, il n'y avait pas de pollution. Donc, tout le réchauffement climatique qui avait lieu était naturel. Et quand je dis naturel, effectivement, c'était dû aux volcans, etc. Qui organisait un peu la régulation de cette température de la planète. Maintenant, c'est à partir de la révolution industrielle que vraiment la main de l'homme est entrée en action. Et quand la main de l'homme est entrée en action, effectivement, ça a accéléré vraiment cette montée en température. Maintenant, effectivement, on parle effectivement de l'accord de Paris souvent, le chiffre 1,5 ou 2 degrés d'ici 2100. C'est un chiffre en fait qui veut simplement dire que effectivement l'humanité, en tout cas le monde, va essayer de contenir cette hausse de température au plus de degrés. Mais ce qu'on voit actuellement, la tendance, en tout cas, qui est prise par le réchauffement climatique, il est clair que les 1,5 degrés dont on fait référence vont être atteints tout au plus en 2030. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2100? Personne ne le sait. Un exemple de plan national d'adaptation, moi, je pense souvent, en fait, en tout cas, l'exemple de la France, hein, parce qu'effectivement, ce pays m'intéresse, parce que je suis tombé par hasard sur le plan national d'adaptation. Et c'est un pays qui se prépare non pas pour une montée en température de 1,5 ou 2 degrés, mais c'est un pays qui se prépare pour plus de 4 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Mmh. C'est quand même extrême.
4 degrés, c'est extrême. Ça veut simplement dire que ces gens sont dans une autre référence. Alors, il faudrait que nous, Africains, qu'on comprenne vraiment en fait ce qui se passe dans ce monde. La tendance, en tout cas, d'augmentation de ces températures n'est pas baissière, ça c'est clair. Et il ne faudrait pas que l'Afrique se leurre, il ne faudrait pas que l'Afrique se trompe en disant que ma référence va être 1,5 degré ou tout au plus 2 degrés d'ici 2100. Et l'exemple que je donne souvent pour le plan national d'adaptation de la France est encore une alerte pour les Africains pour leur dire que il faudrait qu'on se prépare mieux. Voilà. Il faudrait qu'on se prépare mieux par rapport à cette montée en température. Si on ne le fait pas, clairement, on risque de vivre des lendemains extrêmement difficiles. Voilà.
Extrêmement difficile. Aujourd'hui également, quelle doit être, selon vous, la priorité de l'Afrique entre atténuation et adaptation?
Oui, effectivement, c'est une question intéressante entre atténuation et adaptation, parce que vous savez, en fait, ce qui se passe dans ce monde, il y a ce réchauffement climatique, on connaît les responsables, on connaît les pollueurs, en tout cas historiques, et les pollueurs actuels, les pollueurs historiques, j'avais fait état de l'Europe, des États-Unis, les pollueurs actuels, clairement, c'est la Chine, avec certains pays asiatiques. Maintenant, comme je dis, il faudrait que l'Afrique comprenne, en tout cas, dans quelle sauce elle est mêlée. Parce qu'effectivement, on parle souvent, en fait, d'adaptation ou de mitigation, d'adaptation ou d'atténuation. Ce sont les expressions en français. Ceux qui sont responsables de cette pollution ont une part de responsabilité, en tout cas, qui n'est plus à démontrer. Voilà. Et vraiment, en termes d'atténuation, si je puis dire, c'est vraiment à eux de trouver des solutions par rapport à cette augmentation de température. Maintenant, pour répondre factuellement à cette question, moi je dirais que l'Afrique effectivement a été naïvement embarquée dans cette politique d'atténuation, mais il faudrait que l'Afrique sache que vraiment ses intérêts sont dans l'adaptation. Voilà. Et quand je dis adaptation, je vous ai tantôt parlé du plan national d'adaptation de la France, il faudrait que l'Afrique repense en fait à son plan national d'adaptation et non pas faire focus en tout cas sur le mitigation, l'atténuation, qui est une responsabilité entière en fait des pays pollueurs historiques et actuels, que sont les États-Unis, comme j'ai dit, l'Europe, la Chine, qui doivent trouver des solutions par rapport à cette pollution. Et je donne souvent un exemple sur la construction de digues qui empêche effectivement la mer d'avancer. C'est un exemple. Mais si on construit une digue en faisant une prévision d'augmentation de 1,5 degré, si la température monte jusqu'à 4 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'eau va surpasser en fait simplement la digue. Alors c'est la même chose en tout cas la canicule. Effectivement, si on se prépare pour aller une augmentation de 2 degrés ou plus et les 4 degrés sont là, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire de plus en plus chaud. Et moi, c'est une manière, en tout cas pour moi, de dire qu'effectivement, il faudrait que l'Afrique comprenne vraiment là où se trouvent ses intérêts Et ses intérêts sont dans, en tout cas, l'adaptation plus que dans l'atténuation. Voilà.
Plus dans l'atténuation par rapport à des cas de climatique extrême. On a vu des températures allant jusqu'à 50 degrés dans certaines zones du monde. Aujourd'hui, l'Afrique face à ces réalités, l'Afrique qui doit se réinventer et aussi qui doit trouver des solutions idoines aux réalités auxquelles elle est confrontée. Et pour en arriver là, nous avons reçu aujourd'hui M. Elhaj Mbaï, qui, je rappelle, est un spécialiste en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie ISO 5001, notamment sur les questions de changement climatique et de développement durable. Merci encore M. Mbaï pour ces éclairages.
Merci à Tonkara et un plaisir d'être encore parmi vous et toujours dispo pour apporter un éclairage.
Merci également à vous, chers amis auditeurs, pour la confiance et la durabilité de cette exigence que vous nous portez à travers cette émission Durabilité. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro.